Service Orange Monnaie, réception d'argent depuis la France, en partenariat avec la Banque Atlantique, vous propose Appel sur l'actualité. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci d'être avec nous. L'antenne vous appartient. Dans 30 minutes, nous lancerons le débat sur la polémique autour de l'état de santé d'Issénabré. L'ancien président tchadien, vous le savez, est incarcéré à Dakar, au Sénégal. Il a été condamné pour crime contre l'humanité. Issénabré doit-il bénéficier d'une grâce médicale? C'est ce que réclame une association pour permettre à l'ancien président de rentrer chez lui et d'être soigné. Car selon son épouse, l'état de santé de son mari est en constant dégradation. Elle affirme que la semaine dernière, il a été victime d'un accident dans sa cellule. En glissant dans la douche, il s'est fracturé le bras. Elle accuse l'administration pénitentiaire de ne pas avoir porté assistance à son mari. Une information démentie par la prison qui assure que l'ex-président se porte bien. En tout cas, une association de victimes des régimes d'Issénabré en est convaincue. Toute cette polémique ne serait finalement qu'une ruse. Une ruse pour obtenir une grâce. La polémique sur la santé d'Issénabré, on en parle. Elle ne vous laisse pas indifférente, si j'en crois les nombreuses réactions que nous avons au standard et qui nous arrivent sur la page Facebook de l'émission et sur le compte WhatsApp. 33 9 693 693 70. En tout cas, les points de vue sont tranchés. Le débat s'annonce passionnant dans une demi-heure en direct sur RFI. Mais d'abord, vos questions à la rédaction de RFI. C'est votre rendez-vous interactif avec les journalistes de la Radio Mondiale. Et on va commencer avec des questions sur la fermeture des frontières terrestres entre le Nigeria et le Bénin. Cela fait 3 mois, jour pour jour, que plus aucune marchandise ne passe entre les deux pays. Bonjour David.
Bonjour Juan.
Merci de nous appeler de Greenville, c'est au Liberia. Quelles sont vos questions David?
Oui, le gouvernement béninois a haussé le ton suite à l'introduction de douaniers et de policiers sur son territoire. Ma première question, comment un tel incident a-t-il été possible?
Oui, des militaires et des douaniers nigérians qui ont fait irruption sur le territoire béninois pour saisir des marchandises. Bonjour Jean-Luc Aplogan.
Bonjour Juan.
Merci d'être avec nous, vous êtes le correspondant de RFI au Bénin. Ces incidents ont eu lieu aux frontières d'Igolo et Pobé. Expliquez-nous comment des hommes en armes venus du Nigeria ont-ils pu franchir la frontière et vandaliser des magasins béninois?
Eh bien, Juan, vous êtes surpris, ils l'ont fait facilement. Il faut savoir que le Nigeria et le Bénin partagent 773 kilomètres de frontière. Les postes frontaliers dignes de ce nom, avec une administration, police, douane, santé, pompiers, et des barrières bien gardées, eh bien, des postes de ce genre ne sont pas nombreux. Il n'y en a que 3 avec le Nigeria. Le principal de ce poste étant Semekrake, construit sur un site de 17 hectares. Quand c'est comme ça, il y a des dizaines de points de passage informels qu'on ne contrôle pas. D'ailleurs, c'est ce qui explique l'importance de la contrebande entre ces deux pays. Là où s'est produit l'incident du 14 novembre dernier, il n'y a rien de tout ça. Il y avait là une brigade, mais elle n'existe plus. La brigade la plus proche se trouve environ à 8 km du lieu de l'incursion des militaires et douaniers nigériens. Selon nos informations, les pick-up nigériens sont entrés sur le territoire béninois par 2 villages. Il n'y avait ni portage, ni barrière, ni surveillance particulière. L'accès était donc facile et c'est quand ils sont venus que les personnes attaquées ont alerté la police par téléphone. Et au lendemain de cet incident, les Béninois ont implanté maintenant un drapeau qui flotte et posté des policiers.
Oui, et ces policiers et douaniers nigérians sont repartis à bord de ces mêmes pick-up chargés de riz, de téléphones portables et même d'argent, puisqu'ils n'ont pas hésité à prendre l'argent de certains commerçants béninois. David disait à l'instant que le gouvernement du Bénin avait haussé le ton. C'est vrai que le ministre béninois des Affaires étrangères a clairement manifesté son mécontentement. L'ambassadeur du Nigeria au Bénin a été convoqué par les ministres des Affaires étrangères et celui des Finances. Vous avez d'autres questions, David?
Oui. Ben, sachant que ces deux pays sont membres de la CEDEAO, quels sont les recours possibles pour le Bénin?
Alors, incontestablement, Jean-Luc Aplogan, il y a des initiatives qui sont prises pour tenter de trouver une solution à cette crise.
Oui, le Bénin est fâché, ça, vous l'avez dit. Le ministre béninois des Affaires étrangères, Aurélien Aguinossi, a convoqué l'ambassadeur du Nigeria en poste à Cotonou pour condamner et protester. Il a également écrit à son homologue nigérian pour dire la même chose. Le Bénin demande trois choses. Un, des excuses. Deux, retrouver les auteurs de ces attaques. Et troisièmement, restituer ce qui a été emporté. Ils ont emporté 356 sacs de riz, une quarantaine de bidons d'huile, des recettes du magasin et quatre téléphones portables. L'ambassadeur du Nigeria a déploré et laissé entendre que des enquêtes sont en cours et que les résultats seront connus rapidement.
Affaire à suivre. En tout cas, nous lancerons le débat demain avec les auditeurs de RFI sur cette décision unilatérale du Nigeria de fermer les frontières depuis maintenant 3 mois. Quelles conséquences? Vos témoignages nous intéressent. Donc, appelez-nous 33 9 693 693 70. Si vous êtes au Bénin, évidemment, on vous attend au standard. Mais les autres frontières terrestres avec le Tchad, le Cameroun et le Niger sont également fermées. Donc, on a envie de vous entendre également, auditeurs tchadiens, camerounais et nigériens. Merci Jean-Luc Plogan, David, bonne journée au Liberia. Merci de nous écouter à Greenville. Stéphane Lagarde est avec nous. Bonjour Stéphane.
Bonjour Juan.
Envoyé spécial de RFI à Hong Kong, nous vous avons appelé ce matin car nous avons des questions sur la crise politique qui secoue l'ancienne colonie britannique. Des questions posées par Adjako qui nous appelle de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Bonjour Adjako.
Bonjour Juan.
Nous vous écoutons avec Stéphane Lagarde.
Merci beaucoup Juan. J'ai entendu sur la RFI que les manifestants veulent étrangler l'économie de Hong Kong. J'aimerais savoir jusqu'où comptent-ils aller?
Stéphane Lagarde, des manifestants qui sont déterminés, certes, à poursuivre leur mobilisation, mais l'objectif serait d'étrangler l'économie de Hong Kong?
Oui, alors je ne suis pas tout à fait certain que l'on puisse dire que les manifestants, en tout cas ces mots-là, veuillent étrangler l'économie de Hong Kong. Je n'ai pas rencontré ici, en tout cas, de gens qui me l'ont dit. On a vu beaucoup de manifestants, évidemment, ces derniers jours. Vous avez vu certainement les images à la télé, vous avez surtout écouté RFI. Mais vous avez raison, il y a dimanche ce tract sur les réseaux sociaux appelant à la population à se lever et à cibler les intérêts économiques qui étranglaient l'économie. Certains protestataires radicaux pensent peut-être, c'est vrai, qu'en touchant au portefeuille, ils seront plus écoutés par le gouvernement, ce qui évidemment n'est pas sûr. Mais pour le reste, les protestataires que nous avons croisés font attention justement à bien ménager les populations, les commerçants notamment. Ils bloquent les rues, vous savez, ils bloquent toutes les rues. Mmh. Et on a vu ces protestataires parler avec les automobilistes, ouvrir des voies pour que les voitures puissent sortir, pour éviter que justement, les commerçants et l'économie soient complètement entravés. Alors, ce qui est certain, c'est que l'économie de Hong Kong globalement est très affectée par ce mouvement de contestation qui dure depuis maintenant, on le rappelle, 24 semaines. Juan, pour la première fois en 10 ans, l'économie de la région administrative spéciale est entrée en récession selon le ministre des Finances. Ici, la croissance du PIB a reculé de un peu plus de 3% au troisième semestre cet été. Le marché de la finance résiste bien, mais le secteur de la vente de détail est affecté. Moi, je suis sur une place tout à côté de l'université polytechnique de la ville qui est encore occupée par des étudiants. Tous les commerces étaient fermés. Un commerçant était ouvert encore. Il a reçu une grenade lacrymogène sur sa terrasse. Forcément, c'est plus difficile pour les clients qui pleuraient dans les assiettes. Il a dû fermer boutique. Il disait évidemment que ça entrave beaucoup. Et puis, il y a le tourisme aussi. Là, je viens de voir passer un groupe de touristes chinois, mais c'est très rare aujourd'hui des touristes chinois de Chine continentale. Il y en a beaucoup moins parce que même avec les primes qui sont données aux tour opérateurs, ils viennent plus ici simplement parce qu'ils ont peur. Ils s'inquiètent en voyant les images à la télé et même ils sont parfois empêchés par leur entreprise de venir à Hong Kong.
Oui, l'économie de Hong Kong en récession à cause de ces troubles politiques. Hong Kong qui subit également les conséquences de la guerre commerciale entre Pékin et Washington puisque l'économie hongkongaise dépend considérablement de la Chine et des États-Unis. Et puis, on vous en parle depuis ce matin, le Sénat américain a adopté cette nuit à l'unanimité un texte soutenant les droits de l'homme et la démocratie à Hong Kong et un texte qui menace de suspendre le statut économique spécial qui est accordé à Washington à l'ancienne colonie britannique, ce qui est donc un nouveau coup dur pour l'économie hongkongaise. Merci Stéphane Lagarde d'avoir été avec nous en direct de Hong Kong. Adjako, continuez à nous écouter. À Yamoussoukro, on vous remercie évidemment de votre fidélité. Des questions, comme toutes les semaines d'ailleurs, sur cette procédure de destitution visant Donald Trump. Bonjour Alex.
Bonjour, à tous les auditeurs de la RFI.
Vous nous appelez de l'Est de la République démocratique du Congo, nous vous écoutons.
Ok, merci. Depuis la semaine dernière, les auditions dans le cadre de la procédure de destitution de Donald Trump sont maintenant en public. J'aimerais savoir, qu'avons-nous appris des derniers témoignages?
Ah, effectivement, c'est vrai que depuis la semaine dernière, les parlementaires ont commencé à interroger publiquement leurs témoins, publiquement, hein, puisque ces témoignages sont diffusés sur toutes les grandes chaînes de télévision américaines. Bonjour Françoise Coste.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, historienne des États-Unis, professeure à l'université Toulouse Jean Jaurès. Et le moins que l'on puisse dire, Françoise Coste, je ne sais pas si vous suivez en direct ces témoignages, mais incontestablement, ces auditions mettent à mal la version fournie par Donald Trump depuis le déclenchement de cette affaire.
Oui, ces auditions, elles sont passionnantes et elles vont quasiment toutes dans la même direction, c'est-à-dire qu'elles confirment toutes les accusations très graves qu'avait listé le fameux lanceur d'alerte dans la lettre qu'il a écrite et qui a lancé tout ce processus il y a environ un mois et demi.
Mmh. Alors, qu'est-ce qu'on apprend concrètement?
Alors, on apprend que, effectivement, d'abord que même dès avant l'été, dès le printemps 2019, le président Trump a mis en place une diplomatie parallèle pour organiser les relations entre les États-Unis et l'Ukraine. Il a renvoyé l'ambassadrice qui était en place à Kiev. Il a remplacé par un autre ambassadeur, Bill Taylor. Et l'ancienne ambassadrice et le nouveau ont tous les deux dit qu'ils ne pouvaient pas travailler correctement parce que, en fait, il y avait une équipe parallèle nommée par Trump, missionnée par Trump, qui faisait le boulot en Ukraine, équipe parallèle menée par Rudy Giuliani, l'ancien maire de New York, qui n'avait aucune position officielle, qui ne fait pas partie de l'administration, toujours pas d'ailleurs. Et cette équipe parallèle a fait pression sur le gouvernement ukrainien pour lui faire en fait du chantage. Ça fait plusieurs années, depuis 2014, et que la guerre entre l'Ukraine et la Russie a commencé, en particulier en Crimée et dans le Donbass. Donc ça fait depuis 2014 que l'administration Obama et le Pentagone aident militairement l'Ukraine. Cette année, le Congrès a voté pour de nouveau envoyer de l'aide militaire qui s'élève à près de 400 millions à l'Ukraine. Et cet été, Trump et Giuliani ont fait donc ce chantage au président ukrainien pour lui dire « si vous voulez ces 400 millions, il va falloir annoncer une enquête, l'ouverture d'une enquête en Ukraine sur Joe Biden et sur son fils, puisque son fils travaillait pour une entreprise ukrainienne de gaz naturel, et Trump a peur que Joe Biden soit un rival très sérieux pour la présidentielle de l'année prochaine.
En tout cas, il y a une audition cruciale prévue ce mercredi, celle de l'ambassadeur américain auprès de l'Union européenne, audition particulièrement attendue. Vous avez d'autres questions, Alex?
Oui, une question qui reste. Le président Trump a annoncé dans une tweet... Il envisage témoigner devant la Chambre. Peut-on prendre cette déclaration au sérieux?
Ah, c'est vrai que cette décision a surpris plus d'un observateur, Françoise Coste. Donald Trump, qui jusqu'ici avait toujours refusé d'envisager de témoigner, là il dit, eh bien, je suis prêt à témoigner. Vous y croyez ou pas?
Ça m'étonnerait. Je pense que votre auditeur a raison de se poser la question. Ça m'étonnerait parce que même si lui, dans l'absolu, était volontaire, ce dont je doute, mais bon, même si lui était volontaire, je suis quasiment sûre que ses avocats lui diraient de ne pas aller témoigner, parce que témoigner publiquement face à quand même, en particulier des députés démocrates et Daniel Goldman, qui est le conseil de l'avocat de ces députés, qui pose des questions très précises, donc je pense qu'il pourrait facilement tomber dans des pièges, Trump, s'il est auditionné.
Mais il peut...
En particulier en se parjurant.
Je ne connais pas la législation américaine suffisamment bien, comme vous, Françoise Coste, mais est-ce qu'il peut de lui-même décider d'aller témoigner devant les parlementaires?
Ce serait étonnant, parce que ça n'est jamais arrivé, et ce n'est jamais arrivé parce qu'il y a quand même la séparation des pouvoirs entre le législatif et l'exécutif.
D'accord. Donc personne
ne pourrait l'empêcher dans l'absolu.
Ah d'accord, donc il ne faut pas que les parlementaires lui demandent officiellement de venir témoigner.
Alors là,
s'il
y avait convocation officielle, c'est clair qu'à cause de la déclaration de la séparation des pouvoirs, la Maison Blanche dirait non tout de suite.
Merci Françoise Coste, historienne des États-Unis. Alex, a-t-on répondu à vos questions?
Oui, merci beaucoup, Juan. Vraiment, merci beaucoup. Bonne journée.
Bonne journée, Agoma. Merci de votre fidélité. La dernière question du jour, elle nous vient de Lomé, Togo. Bonjour, Romaric.
Oui, bonjour, Juan. Bonjour à tous les
Vous avez des questions sur l'actualité politique en Israël.
Oui. Près de 2 mois après les élections législatives et l'échec de Benjamin Netanyahu à former une coalition, Benny Gantz a jusqu'à ce soir pour former une coalition gouvernementale. Mmh. Alors, Rouen, dites-moi, une entente avec Lieberman et les partis arabes est-elle encore envisageable ?
Alors, c'est vrai que Benny Gantz a jusqu'à ce soir minuit pour former un gouvernement et s'imposer comme le futur Premier ministre. Bonjour Michel Paul.
Bonjour Juan.
Vous êtes l'un des correspondants de RFI à Jérusalem. Incontestablement, les heures sont comptées pour Benny Gantz. Une entente avec Lieberman et les partis arabes est-elle encore envisageable ?
Peu probable. En fait, il s'agirait d'un gouvernement minoritaire, un gouvernement mené par le parti bleu-blanc, c'est le rassemblement centriste qui est dirigé par Benny Gantz. Alors les autres partenaires potentiels, le parti travailliste, les colombes de l'Union démocratique et aussi Israël Beiteinu, le parti de Lieberman. Mais la liste arabe unifiée apporterait un soutien de l'extérieur seulement, sans faire réellement partie du gouvernement. Une coalition qui n'atteindrait pas les 61 voix à la Knesset. Il faut rappeler que le Parlement israélien compte en tout 120 sièges. Alors c'est donc peu probable, et c'est même peut-être encore moins peu probable ces derniers jours pour une série de raisons. Le clash israélo-palestinien à Gaza la semaine dernière, la situation sécuritaire à la frontière nord, et aussi et surtout peut-être la décision des États-Unis de décréter que les colonies de peuplement ne sont pas contraires au droit international. Tout cela ne va pas inciter les députés arabes de la Knesset à voter en faveur d'un parti dirigé par 3 anciens chefs d'état-major.
Ça signifie quoi, Michel Paul, qu'à cette heure-ci, donc à un peu plus de 15 heures de la date limite, les négociations piétinent encore ?
Oui, et ça sera donc ce soir la fin de la période accordée à Benny Gantz. Auparavant, Benjamin Netanyahu avait lui aussi tenté en vain de mettre sur pied une coalition gouvernementale. Hier, il y a eu de nouvelles rencontres, notamment organisées par le président israélien Reuven Rivlin. Dans la soirée, ce sont les deux protagonistes qui se sont une nouvelle fois rencontrés, Netanyahu et Gantz, mais sans résultat. Au contraire, dit-on même, le fossé entre les deux parties est toujours considérable.
Ouais. Romaric, vous avez une dernière question.
Oui. Si aucune coalition n'est trouvée, les nouvelles élections seront-elles organisées bientôt ?
Ah, peut-être les troisièmes élections en un an, Michel Paul.
Alors, si une solution de la dernière minute n'est pas trouvée d'ici à minuit, eh bien, Benny Gantz va déclarer forfait, mais la procédure ne sera pas encore terminée. Le Parlement israélien va disposer de 21 jours supplémentaires pour trouver un autre candidat acceptable par la majorité de la Knesset, et il sera chargé à son tour de former une coalition. Ce qui est intéressant, Romaric et Juan, c'est qu'il ne s'agit pas nécessairement d'un député membre des grands partis. Mais là, en cas d'échec, la Knesset sera automatiquement dissoute, et ce sera à niveau, donc, pour la troisième fois en moins d'un an, des élections avec probablement, d'ailleurs, les mêmes résultats, plus ou moins.
Donc le coupable, finalement, Michel Paul, c'est le système électoral ?
Sans hésiter, oui, la proportionnelle directe par liste est un beau système de démocratie sur le papier, mais dans la réalité, il provoque le tohu-bohu politique. Jamais, depuis la création d'Israël, aucun parti n'a obtenu la majorité absolue. Toujours, il a fallu créer des coalitions avec des petits partis au prix de marchandages très onéreux politiquement et aussi économiquement.
Romaric, a-t-on répondu à vos questions ?
Oui, Juan, c'est très très clair.
C'est très clair, tant mieux. On remercie Michel Paul qui est l'un de nos correspondants à Jérusalem. Bonne journée à tous les deux. Vous avez pris l'émission en cours. Vous souhaitez réécouter les réponses de nos experts, de nos correspondants. Eh bien, rendez-vous sur la page Facebook de l'émission RFI Appel sur l'actualité ou sinon sur notre application Pure Radio ou sur le site RFI.fr. On va marquer une pause. On va retrouver l'ensemble du service Afrique de RFI pour la dernière édition d'Afrique Matin et on reviendra tout de suite après, dans 10 minutes, pour notre débat sur la polémique autour de l'état de santé d'Issénabré. 33 9 693 693 70. Je vous attends évidemment très nombreux.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent.